France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Jean-Baptiste Souffron.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes avec nous dans cette case innovation pour poursuivre justement cette réflexion qu'on a amorcée tout à l'heure en fin d'émission sur ce bilan d'Emmanuel Macron en matière notamment d'innovation et de numérique. On a fait appel à vous parce que vous êtes avocat spécialisé dans le droit numérique, droit des données, droit des affaires, mais que vous avez aussi été conseiller de Fleur Pellerin quand elle était secrétaire d'État au numérique, puis surtout vous avez été secrétaire général du Conseil national numérique, ce fameux organe dont on va reparler, entre 2012 et 2016. Alors ce conseil, il faut le rappeler, il a été mis sur pied sous Nicolas Sarkozy. C'est un organe consultatif qui devait, on est presque tenté de parler au passé, conseiller l'État sur sa politique en matière de numérique. Alors il faut rappeler que tous les membres, théoriquement, je crois, sont volontaires et ne sont pas payés.
Et bénévoles,
et ça c'est important de le rappeler. Alors c'est un conseil qui a été remanié à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, puis finalement Marie Eklund, la capitale risqueuse, a été nommée pour constituer ce conseil, et une semaine seulement après avoir dévoilé son équipe, elle a démissionné avec fracas, avec la quasi-intégralité de son équipe, pour s'opposer au gouvernement, le gouvernement qui réclamait le départ de Rokhaya Diallo, on l'a dit, essayiste, militante antiraciste, et que Marie Eklund avait choisi pour faire partie de ce conseil national numérique. Alors peut-être, on a dit qu'il est en état de mort cérébrale, c'était le terme choisi par Frédéric Martel, mais peut-être pour revenir tout simplement sur ce conseil, est-ce qu'il faut qu'il en ait à nouveau, qu'il existe à nouveau et qu'il soit encore là dans un gouvernement, on l'a compris, où il y a quand même visiblement un volontarisme affiché sur cette question numérique? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tel organe? Parce qu'on n'a pas d'autres, on n'a pas d'équivalent en matière d'agriculture, en matière d'écologie.
Il y a des équivalents,
mais qui sont, disons, plus gros et qui sont des organes consultatifs parfois plus transversaux. Pourquoi est-ce que, selon vous, qui avait donc été secrétaire général de cet organe pendant 4 ans, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce Conseil national numérique?
En fait, c'est ce qui a été dit avant, et c'était un petit peu la façon dont on l'avait retravaillé quand on en a vu l'occasion. C'est un des rares endroits où on peut se faire croiser à la fois des industriels, des financiers, mais aussi des chercheurs, des intellectuels, des gens de la société civile, et leur permettre en plus d'avoir un lien avec le gouvernement pour pouvoir parfois un petit peu taper sur les doigts ou indiquer ce qui ne va pas, et puis aussi être force de proposition et dire, vous savez, ça serait peut-être un petit peu mieux de le faire comme ça. Moi, je ne doute pas que si, par exemple, le Conseil national du numérique était aujourd'hui actif, la loi sur les fake news ne ressemblerait pas à ce qu'elle est. Et d'abord, elle n'aurait pas été présentée aux médias comme elle l'a été, mais aux plateformes comme elle aurait dû l'être. Et c'était un petit peu d'ailleurs ce qui était dit. Du coup, est-ce que c'est un organe qu'il faut maintenir? Moi, je pense que oui. C'est quelque chose de très original. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents ailleurs dans le monde. Alors, à chaque fois que des pays étrangers viennent voir, ils trouvent ça très intéressant. Ils essayent un peu de le reconstruire. Mais c'est quand même une forme de spécificité française de se créer comme ça des organes à la limite de quelque chose d'un peu scientifique, une forme d'académie presque, en leur donnant le pouvoir de la parole et le pouvoir de la bonne idée. La capacité à dire, vous savez, ça, c'est pas ça qu'il faut faire, on devrait faire comme ça. Sur le TTIP, par exemple, à l'époque, le traité transatlantique, eh bien, c'était le Conseil national du numérique qui avait été le premier organe officiel à tirer la sonnette d'alarme en disant, attention, mise en danger des industries numériques européennes sur les données. Et effectivement, c'était la première fois que quelqu'un disait, vous savez, peut-être que ce TTIP, c'est pas forcément ce TAFTA, c'est pas forcément une si bonne idée que ça. Donc, il n'y a jamais eu trop de problèmes d'indépendance, que ça soit première, deuxième, troisième version, c'est pas la question. Même là, la dernière version, Marie Eklund est quelqu'un qui a démontré son indépendance par le simple fait de démissionner. Mais c'est dommage de se priver de ses bonnes idées, de ses têtes à penser, surtout aujourd'hui où sur ce sujet on est. Un gros problème. Je ne sais pas si en France on dit souvent on n'a pas de pétrole mais on a des idées, mais alors dans le numérique on n'a pas de pétrole et on n'a pas d'idées.
Alors ça c'est vous qui le dites, mais justement on va quand même revenir sur ce bilan d'Emmanuel Macron. Évidemment, certes, ça fait un an, on est quand même sur une temporalité très réduite. Alors Emmanuel Macron, on l'a entendu, Marc Barrette, qui est donc correspondant d'El País en France, le voit, il l'a vu, le voit, on le perçoit, et à l'étranger il se défend ainsi, comme quelqu'un de très volontariste sur cette question de l'innovation, sur cette question du numérique, pour rappeler en deux mots certaines des mesures impulsées, je ne vais pas dire lancées, parce qu'elles n'ont pas toutes été dévoilées avec une immense clarté. Il y a évidemment un plan d'investissement d'Emmanuel Macron où il y a 9 milliards qui sont consacrés à l'innovation au numérique, avec principalement normalement des fonds alloués pour développer tout ce qui est numérique en matière de santé et évidemment sur disons la transformation numérique de l'État. Il y a cette idée de taxation court terme des GAFA. Il y a un texte qui a été présenté il n'y a pas longtemps qui encadrerait, par exemple, la mise en œuvre de la voiture autonome, qui est une question qui se pose. Et il y a évidemment un plan sur l'intelligence artificielle avec tout un volet numérique sur la recherche, avec également aussi une plus grande souplesse, possibilité pour des chercheurs de monter des start-up. Certains le voient comme un bilan volontariste. Comment est-ce que vous le lisez, vous, ce bilan?
Ce qu'on peut reprocher, il y a des bonnes choses, hein, mais si on se veut un peu critique, ce qui paraît difficile, c'est d'y trouver la cohérence. C'est-à-dire qu'on voit effectivement plein de sujets en silo les uns à côté des autres, mais quel est le lien, par exemple, qui est fait entre les fake news et l'intelligence artificielle? C'est pourtant deux sujets qui sont extrêmement liés l'un avec l'autre. Quel est le lien qui est fait entre la fiscalité et la voiture autonome? On a l'impression que les sujets sont traités les uns à côté des autres et pas forcément en même temps, ce qui se rattache à ce qu'on disait juste avant, à savoir l'absence d'un conseil national du numérique ou de quelque chose d'équivalent. Et puis, c'est pas forcément très grave non plus, ça fait qu'un an. Donc on peut aussi se permettre sur une première année de lancer des pistes et puis au fur et à mesure de commencer à créer sa doctrine par petits bouts. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses qui semblent se passer difficilement. Il y a le CNUM, on l'a dit. Il y a la loi sur les fake news qui est quand même très mal accueillie. Elle a été présentée au Conseil d'État qui l'a vraiment accueillie avec le bout des lèvres, alors que c'est un sujet qui est absolument fondamental. On ne peut pas se permettre dans les années qui viennent d'avoir des élections qui continuent à être pourries et parasitées par les plateformes ou par on ne sait pas qui à travers des plateformes. Il faut donc trouver des solutions. Et puis, il y a un problème plus général peut-être, qui est que même c'est facile de se donner un air volontariste, d'ailleurs ce ne sera pas la première fois que les politiques se donnent des airs volontaristes, au fond c'est aussi un petit peu leur métier, d'essayer de pratiquer la culture de l'optimisme. Mais aujourd'hui, si je vous pose la question à vous, quelles sont les prochaines entreprises françaises du numérique qui vont faire une entrée en bourse? Eh bien, vous serez bien moi je serais bien en peine de vous répondre, ça serait très compliqué.
Oui, néanmoins, Jean-Baptiste Souffron, vous l'avez dit, vous avez participé à ce Conseil national numérique sous François Hollande. Il n'y en avait pas plus déjà à ce moment-là qu'il y en a maintenant. Marc le disait tout à l'heure, soit on fait du colbertisme, soit on fait du libéralisme. C'est pas non plus, pour le moment, je me fais l'avocat du diable, la faute d'Emmanuel Macron s'il n'y a pas encore de licorne qui soit née dans les 4 mois qui suivent son mandat. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de faire ça?
Bah, écoutez, on n'a pas de pigeons, on n'a pas de licorne. Au fond, on se demande si on a vraiment des acteurs du numérique. C'est un peu ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de parler en l'air et qu'à la fin... Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une petite musique qui s'installe. Et c'est un petit peu ça qui est le plus embêtant sur cette première année. C'est l'idée que les entreprises françaises, au sein de l'État, on l'entend souvent dans les ministères, c'est l'idée que les entreprises françaises ne seraient pas suffisamment performantes pour pouvoir se voir confier des projets numériques d'importance, pour pouvoir être vraiment des leaders sur le numérique. La réalité, c'est qu'au bout d'un an de mandat, on devrait dire, mais vous savez, c'est dans ce secteur et dans ce secteur que j'aurai des licornes. Et c'est dans ce secteur que je vais essayer de pousser.
C'est-à-dire prioriser en donnant des accès. C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron a fait sur la recherche, sur la santé et sur, disons, la modernisation de l'État.
Certes, mais pour l'instant, cette stratégie industrielle, on ne la connaît pas, on ne l'a pas vue dérouler. On sait qu'il va y avoir des investissements sur la santé, on sait qu'il va y avoir des investissements dans la mobilité.
Des investissements comme on n'en a pas eu dans les mandats précédents.
Absolument, absolument. Mais vers qui vont-ils aller? Les seuls acteurs qui aujourd'hui se voient, dont on peut imaginer qu'ils vont pouvoir avoir un rôle sur ce sujet, c'est par exemple le Quant, le moteur de recherche français et européen, puisqu'ils sont aussi maintenant franco-allemands. Mais au-delà de ça, il y a tellement de secteurs sur lesquels on pourrait voir démarrer des choses. Le rapport France-IA, par exemple, le rapport Villani sur l'IA, qui est absolument intéressant. Et d'abord un rapport pour le monde de la recherche. Ce n'est pas un rapport tellement industriel. Il ne dit pas voilà sur quoi on va pouvoir monter un secteur, etc. On a un peu l'impression dans une politique, si vous voulez, qui rappelle celle de Valéry Giscard d'Estaing, en fait. Je sais pas, les gens ne doivent pas se rappeler parce que c'est pas quelque chose qui est très connu, mais à l'époque, on avait... Exactement. Non, mais à l'époque, on avait un truc qui s'appelait le plan calcul, dans lequel tout le monde était très motivé, prêt à dépenser de l'argent pour créer des leaders français sur l'informatique. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing est arrivé, il a dit non, mais tout ça, c'est pas à nous de le faire, il y a des Américains qui sont là pour ça. Et on a
sabordé... Le discours d'Emmanuel Macron est exactement à l'antithèse.
Bah, écoutez, oui, dans ce cas-là, ok. Mais alors, avec qui? Parce qu'aujourd'hui, les formations qui sont faites...
Vous prenez un colbertisme, c'est-à-dire à un moment donné, prendre des gens, les soutenir et le dire publiquement.
Vous savez ce qu'il en est ressorti du plan calcul, finalement, 40 ans plus tard? Eh bien, il en est ressorti l'INRIA, qui est le seul joyau français en matière d'intelligence artificielle. Donc oui, je suis pour un colbertisme fonctionnel, quelque chose de pragmatique. Mais vous ne pouvez pas accepter qu'aujourd'hui, chaque Français ait dans sa poche un téléphone portable dans lequel il n'y a ni matériel, ni logiciel, pas une touche qui soit française. Quand on a sorti le Minitel, d'abord, on peut s'en moquer a posteriori, on peut se dire que c'est ringard, mais ça ne l'est pas. Et quand c'était sorti, à l'époque, tout le matériel à l'intérieur et tout le logiciel était français. Mais ce que ça veut dire en disant que c'était français, ça voulait dire non seulement bien sûr que ça faisait des emplois, des choses comme ça, ce qui est très simple et qu'on oublie souvent de dire, mais surtout ça veut dire qu'on contrôlait ce qui se passait. On connaissait les gens qu'ils faisaient, on savait quelles étaient leurs valeurs, pourquoi ils le faisaient, dans quel sens ça allait se dérouler, et on se retrouvait pas avec des gens qui tout d'un coup vous censurent un tableau de Poussin parce qu'ils estiment qu'on n'a pas le droit de voir des seins.
Alors ouais, effectivement, rappelons quand même que France Connect doit être lancée, c'est cette fameuse plateforme qui doit regrouper services publics et services privés et qui sera développée par des Français. Merci beaucoup Jean-Baptiste Souffron.